Bonjour et bienvenue à votre émission « Qu'en pensez-vous? » Une émission d'actualité. Oui, oui, on est de retour cette saison. On va décortiquer avec vous l'actualité de la semaine, tant au niveau local, régional, national, et on ira même quelquefois à l'international. Et j'aurai encore cette année des panélistes de qualité. Cette semaine, Joannie Riendeau. Bonjour, Joannie.
Bonjour, Pierre.
Ça va bien?
Oui, passez un bel été.
J'ai passé un très bel été d'agriculture, de théâtre et de plage.
Ah, moi, j'ai passé un bel été à connaître différents milieux de notre communauté en tant que nouvelle arrivante. Et je suis de plus en plus en amour avec cette région d'accueil.
Wow, c'est génial, ça! Prête pour affronter l'actualité. Je pense que cet automne, nous aurons une actualité foisonnante avec, entre autres, la campagne électorale.
La campagne électorale, la situation à l'international, mais aussi beaucoup de développement auprès de notre MRC qui s'en vient, qui est bien intéressant à regarder.
Donc, on plonge?
Oui, j'aurais peut-être une petite demande spéciale à te faire aujourd'hui.
Mais vas-y, je te permets ça parce que tu es maintenant une vétérane.
Eh bien, lors de la dernière émission à la garderie de ma fille, une jeune fille qui m'a reconnue.
Oh.
Je t'ai vue dans la télé de mon papa. Donc, bonjour Lydia, je t'avais promis que je te ferais un coucou à la télé. La voici.
Maintenant, Lydia, t'es peut-être couchée. C'est tes parents qui écoutent. On sait pas. Ça dépend à quelle heure vous écoutez l'émission.
Mais je suis sûre qu'ils vont lui faire le message.
Oui, c'est clair. Donc, on va décoller ça avec notre grand dossier de l'automne, les élections fédérales. Donc, depuis le 11 septembre, 10h, Justin Trudeau, qu'on peut maintenant déjà appeler l'ancien premier ministre, parce que là, on ne sait pas si le chef du Parti libéral est allé voir la gouverneure générale, en fait, pour lancer la campagne électorale pour savoir qui nous gouvernera lors des 4 prochaines années, ou moins, dépendamment si on a un gouvernement majoritaire ou minoritaire. Avec toi, on va réfléchir à ça, en fait, tout le long de l'automne jusqu'aux élections.
Oui.
Commençons d'abord par les partis en présence. Donc, on va faire le tour des partis. Et j'aimerais que tu me dises quels sont d'où on part avec ces partis-là? Où est-ce qu'on devrait aller et sur quoi on devrait travailler? On va commencer par les libéraux.
Oui, on ne se le cachera pas. Chacun des partis au Canada n'ont pas la même chance, n'ont pas le même point de départ. Par exemple, le Parti libéral, pour commencer, a quand même un grand historique. A été reconnu, mais pas tout le temps pour les bonnes choses.
Non, puis il ne faut pas oublier quelque chose, ils ont aussi, eux, un bilan à défendre, contrairement à la dernière élection.
Oui, ils ont un bilan à défendre, incluant des scandales éthiques assez majeurs, SNC-Lavalin, la GACAN, plusieurs choses aussi qui sont à défendre sous le chapeau du premier ministre et aussi en tant que gouvernement. L'achat du pipeline aussi, il faut prendre en considération, qui a été fait dans le dernier mandat. Mm-hmm. Oui, ils ont réussi une promesse de la légalisation de la marijuana.
Qui s'est relativement bien passé.
Je pense que on avait peur,
c'était un peu le bug de l'an 2000 avant que ça se passe.
Mais oui, ils ont mis beaucoup de pression sur les gouvernements provinciaux et les gouvernements locaux. Mais il y a aussi, c'est une promesse qui était pas mal plus facile que le changement du système d'élection.
Oui, mais écoute, ça, c'est une promesse qu'on entend depuis 50 ans, le changement de
Oui, mais quand on est au pouvoir, quand on est au pouvoir par le mode de scrutin qui est déjà en place, c'est dur de dire on va le changer. Donc là, déjà, le Parti libéral, avec son historique, aussi, c'est un des partis où on a une meilleure perception du français avec le Bloc québécois aussi. Mm-hmm. Parce que c'est souvent des Québécois qui sont premiers ministres dans le Parti libéral aussi. Il faut le prendre en considération aussi.
Clairement.
Donc ça, c'est mon avis pour le Parti libéral. Puis on a quand même un très bon représentant ici, qui était l'ancien maire de Dolbeau-Mistassini, M. Richard Rebert. Mais ça, on va pouvoir en parler au cours de la saison, mon
Oui, je vais même le rencontrer personnellement pour faire un petit entretien avec. D'ailleurs, je vais rencontrer, lors de l'émission, mon émission Accès MRC, je vais rencontrer chacun des candidats. En fait, on a invité tous les candidats dans la circonscription Lac-Saint-Jean. Est-ce qu'ils vont tous se présenter? Je ne sais pas. J'en ai déjà quelques-uns de confirmés. Pour les autres, je vous attends avec plaisir.
Non, ça va être le fun de parler avec les différents candidats pour voir les impacts locaux qu'ils recherchent.
Oui, c'est ça. Donc, le Parti libéral, eux, vont se présenter encore comme les défenseurs de l'environnement, mais vont devoir défendre le pipeline. Ils vont travailler fort au Québec parce qu'ils savent que les conservateurs, c'est peut-être plus difficile au Québec. Au niveau des enjeux, donc...
Oui, mais il y a aussi... j'ai une forte impression qu'ils vont éviter la question éthique parce qu'ils ont un gros ménage, une grosse réflexion à faire. Ils vont devoir en parler, mais je pense que c'est ceux qui vont partir les scandales qui vont nuire aux autres partis.
Oui, peut-être, peut-être, peut-être. Mais au niveau de l'éthique, entre autres, avec SNC-Lavalin, il ne faut pas oublier que peu importe comment on va juger au niveau de l'éthique ou de la transparence dans ce dossier-là, il reste que l'objectif est peut-être de sauver des emplois au Québec. Fait qu'il y a des gens qui vont mettre ça avant l'éthique, parce qu'on sait de toute façon que les partis n'ont aucune éthique. Tout parti confondu. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. On lance les hostilités, j'aime ça. Parti conservateur du Canada. Donc, Parti conservateur, Andrew Scheer.
Qui ça... c'est dans la région qu'il connaît? Je veux dire, on entend... Excuse-moi, je pars avec beaucoup d'émotion à propos de ce sujet-là. C'est qu'Andrew Scheer, on entend parler, on n'entend pas parler beaucoup depuis longtemps parce que, un, c'est un gros chef. Deux, mm-hmm. c'est la première fois qu'il va faire des élections. Trois, y es-tu pro-choix ou y est pro-vie? Ou il est ni un ni l'autre? Hey, est-ce qu'il va avoir le contrôle sur ses députés?
Ouais. Peux-tu faire une parenthèse là-dedans? Je suis tanné, moi, de l'appellation pro-choix, pro-vie. Moi, je trouve qu'on devrait faire pro-choix, anti-choix. Là. C'est ça, là, le vrai débat. Là.
Alors, en tout cas. Il y a toute une question de marketing. Ouais. On veut pas être anti. Il n'y a personne qui veut être marqué comme anti, donc ils ont décidé d'être pro-vie. Mais la vie de qui?
Ouais.
C'est ça. En tout cas.
La position au Québec est assez claire là-dessus, là, je pense.
Oui, puis si vous voulez avoir des députés au Québec, il fallait qu'ils soient clairs là-dessus. Mais moi, je me demande, est-ce qu'il va avoir le contrôle sur ces députés? Parce que toute la réponse à ce scandale-là qui a été fait, c'est on ne peut pas empêcher nos députés de faire un projet de loi. C'est ce qui est vrai au niveau fédéral.
Non,
peut faire une pression, mais il ne peut pas empêcher au niveau de la Constitution du Canada.
Avec la ligne de parti, il peut réellement le faire. D'ailleurs, les libéraux l'ont fait. Ils ont des candidats qui sont pro-vie dans le Parti libéral, mais là, on a dit, vous ne pouvez pas amener le débat sur l'avortement.
Donc, vous voyez que...
Donc, on peut le faire.
C'est une question que...
le faire, c'est une autre chose.
C'est ça. Est-ce qu'il va s'engager à ne pas le faire? Ça, c'est quelque chose de bien important à prendre en considération.
De toute façon, on l'a vu avec dans le gouvernement, lors des précédents gouvernements Harper, il y a toujours un projet de loi privé qui venait d'un député d'arrière-ban conservateur qui voulait insidieusement changer la loi sur l'avortement. Ça va être leur... en tout cas, au Québec, c'est clairement quelque chose
qui... Ça va être le plus gros bâton dans les roues.
Ouais.
Il y a un autre bâton dans les roues, c'est le Parti populaire du Québec. Le Parti populaire qui va sortir avec M. Maxime Bernier.
Oui, parce que c'est clair que les pourcentages de vote que M. Bernier va aller chercher, il les enlève aux conservateurs.
Il les enlève aux conservateurs, mais j'ai l'impression qu'on va avoir notre Donald Trump, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il va sortir des affaires là, qui vont faire parler dans les médias.
Et d'ailleurs, par exemple,
Greta Thunberg.
Ouais.
Tu sais, le scandale de Greta Thunberg, qui est une jeune femme de 16 ans qui est activiste. Mais qu'est-ce qui est particulier? C'est que ses actions ont été promues. Elle a traité. Toute l'histoire Twitter à propos de Maxime Bernier, qui l'a traité de tous les noms sans connaître sans connaître la réalité de cette femme-là. Parce qu'il l'a traité de désaxée. Mm-hmm. Donc, mais cette femme-là est pas mal plus au courant, puis elle a une opinion, puis elle...
Une opinion basée sur la science, il faut le rappeler, non pas sur des...
Bien, c'est que ses engagements sont vraiment représentatifs de ses valeurs, puis de ses valeurs qui sont appuyées par des faits scientifiques. Et elle va... on peut avoir des valeurs, mais elle va au-delà des valeurs en faisant des actions concrètes qui parlent. Par exemple, le transport en voilier. Oui, il y a un scandale au niveau des équipiers, mais l'image marketing, dire « je suis prêt à faire l'effort, à passer autant de temps », c'est important.
Ceux qui veulent la dénigrer vont toujours trouver quelque chose pour écœurer le monde. Tu sais, je veux dire, tu sais, si dans la vie, quand tu es jeune, on ne t'écœure pas à cause de ton nom, on va t'écœurer à cause de ton nez ou de tes cheveux,
oh non,
de,
ça,
peu importe. Là, tu sais, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu vas tout faire pour le dénigrer.
Oui, d'un autre coup. Puis c'est ce que je trouve plate de la part d'un politicien d'expérience, on ne le cachera pas, Maxime Bernier est quand même un politicien d'expérience qui a été pris dans un scandale à propos d'une mallette aussi.
Ouais.
Il ne faut pas oublier cette mallette en question. Bien, il y a un culte de la personnalité qui s'est fait autour d'une jeune fille de 16 ans. Il y a un culte de la personnalité, ce qui fait qu'elle a des attaques de sa personnalité et non de ses opinions ou de ses valeurs.
Mmh.
Et M. Bernier est rentré là-dedans. On l'a, d'un côté du spectre, on l'a complètement détruit en disant ce que tu as répondu n'a aucun sens, n'est pas appuyé par des faits. De l'autre côté du spectre, donc les gens qui sont de son parti, tu n'aurais jamais dû t'excuser. Donc là, on voit un peu que, est-ce que la personne, elle pense vraiment ses idées ou elle va chercher l'extrême droite.
Moi, je pense qu'on veut, un peu à l'image de Donald Trump, on veut créer le momentum, on veut créer, on veut prendre le crachoir. Donc, on va tout faire pour l'avoir. Puis une fois que tu l'as, ben, c'est de la publicité. Tu sais, qu'on parle en bien ou en mal de toi, l'idée, c'est de faire parler de toi. T'sais.
Oui, mais là, tu m'as fait voir une nouvelle dernièrement avant l'enregistrement de l'émission. J'ai adoré ça. Maxime Bernier contre Maxime Bernier.
Oui, la partie rhinocéros qui va présenter un Maxime Bernier face à Maxime Bernier dans la, c'est la même circonscription. Ça me fait très rire.
Je ne sais pas si tout le monde sait à l'antenne qui est le parti rhinocéros, mais c'est un parti à valeur parodique. Ouais. Qui a pour but, c'est pas tant d'être au pouvoir.
C'est un parti qui est légal. Hein?
Oui, il est légal, il est enregistré, par... il est connu, mais c'est pour démontrer les aspects ridicules souvent des élections fédérales. Donc, ça va être très intéressant à suivre.
Revenons aux conservateurs, parce qu'on a un peu dévié.
Oui.
Autre chose, les conservateurs, ben, eux, vont se présenter comme les rois de l'économie, de l'équilibre budgétaire. Ce qui est statistiquement faux, hein, parce que si on regarde au cours des 50 dernières années, les deux premiers ministres qui ont le plus endetté le Canada, Brian Mulroney, Stephen Harper.
Qui les ont plus endettés et mis
ça, c'est statistique. C'est pas moi j'invente pas ça.
Il y a aussi, oui, je comprends au niveau de la dette. C'est le processus de réflexion en arrière. Est-ce que ça l'aurait amélioré s'ils avaient renouvelé leur mandat? Ça, je ne sais pas. Personne ne peut savoir l'avenir qui n'est jamais arrivé. Mais... la question que moi, je me pose, c'est la précarité des personnes qui dépendent des investissements du gouvernement. Oh, le système Phoenix, tu sais, le temps qu'on attend à appeler à Revenu Canada, c'est à cause des coupures que les conservateurs ont fait en disant « on va couper ». Oui, il faut savoir que le programme conservateur, c'est l'État le moins présent possible. Mais aussi, lorsqu'il est présent, il est très présent, par exemple, dans le système carcéral, dans le système juridique. Donc, on parle vraiment de... Quand on dit conservateur, c'est que la société...
La loi,
l'ordre et la société doit rester telle qu'elle est. Et on va améliorer telle qu'elle est. Mais il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'audace, si je peux mettre entre... Il n'y a pas de... On est bien dans ce qu'on est. Continuons à l'encourager. Donc, c'est pour ça que... Il faut voir, OK, on est dans quel spectre. Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut changer dans le système? Si oui, si on voit une autre façon dans le système, il faut se demander comment le faire. Si la solution est classique, on va plus être vers le conservatisme. Au lieu de, si on essaye quelque chose de nouveau, on va plus être dans le progressisme.
Ouais.
Donc, ça touche différentes personnalités, ça touche différentes personnes. Oui, moi, personnellement, je ne m'en cache pas, les conservateurs, ils ne m'attirent pas comme parti. Parce qu'il y a beaucoup de choses que moi qui ai travaillé dans le domaine social, c'est eux aussi qui apportent les scandales contre l'immigration. Mmh. Alors qu'ils sont directement dans le gouvernement et ils voient, ils ont les statistiques devant eux qui démontrent que l'immigration, un, n'est pas aussi importante qu'on le pense. Deux, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent que ce qu'ils pensent. C'est vraiment important. Mais ils l'utilisent pour faire peur. Donc, on parle toujours à l'émotion de l'électeur. Ce qui me tanne, moi...
Plutôt qu'à son intelligence.
Non, c'est vraiment... Ça me tanne beaucoup parce que à ce moment-là, on arrive et... Ah, ils votent au pouvoir. Ah, ben ils font une décision qu'on n'est pas d'accord. Ah, mais on les a élus. Parce que c'est cette clientèle-là aussi qui vont aller chercher. C'est ces électeurs-là qui vont faire... Ah, moi, je vote aux 4 ans. Après, ah, ils vont revoter. Mais ils vont faire des bons coups dans les 6 derniers mois. Ce qui a été prouvé, c'est qu'au niveau de la politique, les Canadiens ont une mémoire de 3 mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me dire, au début de l'été, qu'est-ce qui est arrivé au niveau gouvernemental? Au début de l'été, ça fait 3 mois.
Ils ont annoncé les vacances.
Mais il est arrivé tellement de choses au cours de l'été, puis avant l'été aussi. T'sais, donc, ça fait partie des stratégies de toutes les partis politiques, mais celle des conservateurs me gêne le plus parce que c'est celle qu'on voit le plus d'impact, mais pas les impacts les plus publicisés. Ben,
puis on fait beaucoup de publicité, c'est les rois de la publicité négative. Donc, à la place de valoriser ce qu'ils veulent faire, on est souvent en train de démolir les adversaires.
Avec nous, ça va être mieux, mais quand ils arrivent, comment tu fais pour continuer?
Puis moi, la peur que j'ai, c'est que le Parti libéral embarque là-dedans parce qu'il y a 4 ans, il avait fait une campagne très positive. Ça a changé, c'était le fun. Mais là, comme ils doivent se défendre leur bilan, ils vont contre-attaquer. Et je pense qu'il va y avoir de la publicité négative pas mal de tout le monde.
Dans la campagne préélectorale, c'est ça que je...
Puis on est vraiment dans une société maintenant qui est beaucoup plus médiatique, les médias sociaux, etc. Donc, on va essayer de tabler là-dessus.
Bien, les fausses nouvelles, elles fonctionnent beaucoup à cause de l'émotion. Donc, c'est le titre qui est émotionnel. C'est comme ça que ça marche.
Bien, on l'a vu, hein? Dernière campagne américaine, entre autres, là, sur les 50 nouvelles les plus relayées, il y en avait plus de 50% qui étaient des fausses nouvelles.
Puis, en plus, il faut regarder aussi, étant donné que là, il y a eu le... Là, on dévie un petit peu, mais je trouve ça bien intéressant.
Non, on parle d'élection. On parle d'élection.
Il y a un enjeu important, mais ça va être pour les élections, pas tant pour le gouvernement, mais ça va être nos données. Mm-hmm. Nos données personnelles qui, tu sais, on a eu... Cambridge Analytica, non, oui. Je ne veux pas parler exactement des données personnelles au niveau bancaire, mais je parle des données personnelles, nos goûts, nos amis, vraiment, comment on va faire. Bien, c'était ça quand on a entendu parler de Cambridge Analytica avec la dernière élection américaine. C'est quelque chose que présentement, le CRS, le SCRS, le Service canadien de renseignement et de sécurité, surveille énormément pour pas qu'il y ait d'interventions extérieures au Canada pour les résultats d'élections. Parce que c'est ça, les données. Les pubs qu'on voit sur Facebook, là, vous avez juste le temps de passer un gris panini que vous avez plein de pubs de gris panini. Imaginez les élections. Les élections qui ont un poids sur l'avenir de notre gouvernement.
Non, les algorithmes sont insidieux. Hein?
Les algorithmes, mais ceux qui ont accès aux algorithmes aussi, parce que ceux qui travaillent dans le domaine de la publicité le savent. Maintenant, avec toutes ces données-là, on est capable de cibler avec une aiguille à 100 mètres. On est capable de savoir quelle chose va agir sur quelle personne, puis envoyer vraiment des publicités ultra ciblées. Puis, qu'est-ce qui est arrivé avec Cambridge Analytica? C'est arrivé à deux endroits. Il est arrivé au gouvernement aux États-Unis, mais aussi dans la campagne du Brexit.
Oui.
Bien, c'est qu'ils ont ciblé les indécis. Oui. Et c'est ça qui fait la grosse différence.
Revenons à nos partis.
Oui.
Là, on avait parlé un peu, mais bien, donc, libéraux, conservateurs. Bloc québécois,
première année sans Gilles Duceppe.
Ben oui, depuis...
Première édition du Bloc sans Gilles Duceppe, avec beaucoup d'instabilité face à leurs deux changements de chef depuis la dernière élection.
Ben, je pense qu'ils veulent mettre de côté l'épisode de Martine Ouellet.
Ils vont peut-être vouloir le mettre, mais ça ne veut pas dire que les autres partis vont le mettre de côté.
Ouais, en même temps, j'ai l'impression que ça ne sera pas...
Ça ne sera pas le grand sujet.
Non.
Je vais te dire, ben franchement, ça ne sera pas le grand sujet parce que tout le monde a de l'instabilité dans ces parties-là.
La question du Bloc, la question qui est posée depuis 1993, là, depuis la
Quelle
création
est son
du Bloc.
Utilité?
Ben oui. Est-ce que c'est encore pertinent d'avoir un parti souverainiste au fédéral? Est-ce que ça n'enlève pas du poids aux partis souverainistes provinciaux? Est-ce que, comme ils ne prendront jamais le pouvoir, est-ce que ça a une utilité? C'est ça les questions qu'eux se font toujours poser. Et ils ont toujours des réponses en disant non, on est... Puis certains députés ont même démontré que même en étant dans l'opposition, ils étaient capables de faire avancer des dossiers puis de défendre le Québec. Est-ce que c'est tout le temps le cas? Là, c'est la question qu'on doit se poser avant de se dire est-ce qu'on vote pour le Bloc québécois ou non? Qu'est-ce que tu en penses?
Le Bloc québécois a son utilité lorsqu'on n'a pas d'attachement à un autre parti, selon moi. Parce que le Bloc, statistiquement, il est impossible d'être majoritaire.
Mais non.
Parce qu'il y a seulement des candidats au Québec. Et le Québec n'est pas 50% du pays.
Ouais.
C'est automatique. Donc, il ne peut pas être majoritaire, il ne peut pas... Mais, lorsqu'on arrive avec des situations où que, grâce au Bloc, on arrive à mettre une opposition forte et que le gouvernement est minoritaire, il doit être obligé de négocier avec le Bloc québécois.
Et c'est là où il y avait un beau levier, là. Il y avait vraiment un levier décisionnel. C'est quand, dans un gouvernement minoritaire, tu as parfaitement raison, mais est-ce qu'ils l'ont bien utilisé à l'époque d'Arpas? Pas toujours certain.
L'époque d'Harper, est-ce qu'il était première ou deuxième opposition?
Peu importe, Harper était obligé d'avoir un des trois autres partis pour adopter n'importe quel projet de loi. Un des trois autres partis devait l'appuyer, donc ils avaient, s'ils le voulaient, un poids décisionnel.
C'est le s'ils le voulaient, puis au cours des dernières années, il y a tellement eu d'instabilité, puis non, ils sont encore. Ils sont encore. Je pense que ce parti-là a son utilité, mais laquelle? C'est ce que je me pose comme question. Parce que même au Québec, on est instable face à notre avenir en tant que pays, si on veut devenir un pays indépendant. En tant que gestion d'immigration, à plein de choses, on est trop instable pour se dire on se rassemble en arrière d'un même statut. Lorsqu'on a eu le Bloc québécois, lorsqu'il est arrivé, c'est vraiment au cours des référendums. Puis là, on avait vraiment un axe important. On avait un point sur lequel se rassembler tous ensemble. Mais le Bloc québécois, présentement, dans sa formule, il me donne franchement l'impression de ne pas répondre à la majorité des Québécois. Ils sont encore en train de se chercher sur c'est quoi leurs valeurs, c'est quoi l'immigration. On a-tu déjà entendu parler, le Bloc québécois, donner leur avis sur l'immigration?
Ouais.
Oui, ils peuvent, ils vont réagir, mais ils n'ont pas de point en particulier. Donc, C'est comme, je te dirais que c'est les mêmes réflexions qu'on a eues sur le Parti vert à travers le Canada. Sont-ils juste pour l'environnement? Le Bloc québécois, sont-ils juste pour la souveraineté du Québec? Non. Comme le Parti vert ne l'est pas. Mais étant donné qu'on ne les connaît pas assez, on ne connaît pas encore assez ce qui est autre dans leur programme, c'est ce qui rend la décision assez mitigée de choisir le Bloc québécois. On peut la prendre comme par principe. Mais au Québec, on a une grande tendance à voter, surtout dans la région, on a une grande tendance à voter pour les gagnants pour avoir du pouvoir décisionnel. Mmh. Parce qu'il ne faut pas oublier que le secteur de Lac-Saint-Jean, oui, ça, rappelez-vous-en, vous êtes les électeurs en question, le comté de Lac-Saint-Jean puis le comté de Lac-Saint-Jean-Est dans les deux paliers de gouvernement est considéré comme un territoire thermomètre. Mmh. C'est assez changeant pour dire que ils vont se fier aux résultats du secteur Lac-Saint-Jean pour savoir qui va être au pouvoir.
OK.
Donc, c'est vraiment...
comté baromètre.
Oui, comté baromètre. Merci beaucoup.
Non, j'ai aimé ça, ton comté thermomètre.
Mais comté baromètre, c'est un collègue de travail qui m'a fait remarquer ça. Donc, est-ce que c'est tant pour nos valeurs que pour avoir le pouvoir ou avoir accès au pouvoir?
C'est une question
qu'il faut se poser en tant que... Parce que au cours de l'été, étant donné qu'on avait l'odeur d'élection qui s'en venait, on en a beaucoup parlé dans les différents milieux. Puis on s'est posé la question, est-ce que c'est mieux d'avoir un parti qui est flexible, qui va vers le pouvoir, ou un parti qui reste avec ses mêmes... pas un parti, mais un comté qui va toujours être sur le même, ou un comté qui change selon les pouvoirs qui vont être en place. Les deux, ça indique quoi?
Oui.
Il faut se poser la question, faut pas se poser la question individuellement, parce que la réponse qui m'a beaucoup remis, puis on a réfléchi beaucoup là-dessus, c'est est-ce que les gens ont conscience de leur impact de leur vote? Parce que...
Moi, c'est tout un autre...
Oui, mais bon. Je vais donner juste une chose, c'est que les gens, ils pensent que... les gens que j'ai côtoyés, qui m'ont parlé, je ne pense pas que c'est la majorité, mais quand même assez intéressant, pensent que si leur vote va à un parti qui ne va pas au pouvoir, c'est un vote perdu. Alors que chacun des votes qu'un candidat reçoit, c'est plus d'argent à la campagne suivante. C'est vraiment dire qu'il y a une valeur qui est mise, il y a aussi un impact qui est mis plus... Donc, il faut vraiment voter selon nos valeurs, selon ce qui nous intéresse, et non selon les possibles bénéfices si la personne est au pouvoir.
Puis, techniquement, il y a d'autres choses, c'est que la manière que notre système électoral est fait, donc il est nominal à un tour, on doit voter pour le meilleur candidat dans notre comté et on devrait faire fi en fait du chef là, puis du parti qui va être au pouvoir.
Mais encore là, étant donné la médiatisation...
Ouais. Bien, on fait des campagnes de chefs, on ne fait plus des campagnes d'idées.
Mais c'est parce que les grands pouvoirs, les grandes décisions se font où? C'est pas notre député. Notre député va avoir de l'impact, mais ne va pas prendre des décisions au niveau local. Il va avoir de l'impact. C'est pas lui qui va décider. Donc, ça serait toute une émission ensemble à parler sur le système électoral canadien.
Ouais, ça me dérange pas. Ça me fera plaisir de faire ça.
Ben oui, t'en avais ton milieu.
Maintenant, t'en as parlé, Parti vert. Parti vert qui a le vent dans les voiles. En ce sens qu'ils allaient chercher 2, 3, 4 %, puis là, on sont autour de 10, 12 %.
Oui, ils ont, la Colombie-Britannique qui est un très beau potentiel pour eux.
Ils ont grugé beaucoup de votes, entre autres au NPD. Hein, ça va se battre pour la gauche, là,
Theresa May n'est plus tout seul.
Et puis, autre chose que je voulais dire, mais eux, comme tu l'as si bien dit, c'est que l'enjeu principal, ça va être de se définir au-delà de l'environnement. Parce que c'est quoi que vous avez à proposer d'autre? C'est beau, là, on est d'accord, l'environnement, c'est important. Maintenant... Qu'est-ce que vous allez faire pour l'économie, pour le transport, pour le travail, pour...
La justice, pour l'immigration, oui, c'est ça, hein? Tout ce qui est en lien avec le gouvernement canadien. Donc, c'est ça. Étant donné non plus qu'ils n'ont pas le devant de la scène, c'est un peu dur. Donc, c'est comment ils vont utiliser... C'est là que ces partis-là vont avoir un gros avantage d'utiliser les médias sociaux pour faire valoir pas seulement l'environnement. L'environnement, c'est leur locomotive. C'est leur locomotive parce qu'on les sont reconnus pour ça, puis ils ont des idées très intéressantes. Et après?
Oui, c'est ça.
Et une locomotive, si elle n'a pas de wagon en arrière, ça apporte pas... Ça va loin. Ouais. Ça va où?
Puis une autre chose, c'est qu'ils ont un député en ce moment. S'ils se ramassent avec 7-8 députés, c'est une grande victoire, mais on s'entend que les possibilités qu'ils prennent le pouvoir sont absolument...
Il faudrait vraiment une élection en 40 jours, peut-être, qui soit spectaculaire.
Ouais.
Parce qu'on a eu ça avec le NPD il y a quelques élections.
De Jack Layton.
Avec Jack Layton, qui est encore une élection par chef, là, une campagne selon les chefs. Mais Moi, je souhaite voir une élection comme ça. Je ne sais pas qui va être au pouvoir, je n'ai pas la prétention de le savoir, mais une élection où on va se dire il y a des nouveaux visages, il y a des nouveaux programmes qui avancent au lieu d'être du bipartisme. Là, ce qui est le fun, c'est que contrairement aux États-Unis, oui, on n'est pas tant bipartiste que ça, là, avec le NPD qui est rentré, avec le Bloc qui est rentré.
Oui.
Mais on je ne dis pas qu'ils ont toutes la même chance d'aller au pouvoir, mais on parle pas juste de ces deux partis-là.
Le problème, c'est que comme on a fonctionné longtemps avec le bipartisme, on a beaucoup de difficultés et on démonise beaucoup les gouvernements minoritaires quand c'est hyper sain. Là. Quand on sait gérer un gouvernement minoritaire, regardez Angela Merkel en Allemagne, 12 ans de gouvernement minoritaire, première économie d'Europe. Je veux dire, ça fonctionne si on veut travailler ensemble. Le problème, c'est qu'ici, quand on a un gouvernement minoritaire, les gens ne veulent pas travailler ensemble, ils veulent s'affronter. Tandis que l'idée du gouvernement minoritaire, c'est « Hey, on va se parler avant de décider ». Il semble qu'il y a quelque chose de sain là-dedans.
Bien, de là, l'importance de la manière dont on vote. Mm-hmm. C'est quand même un pouvoir important que nous avons au Canada, de la manière dont on vote. Parce que si on vote toujours pour celui au pouvoir, ils vont juste avoir le goût d'aller plus vite en élection pour avoir plus, pour avoir majoritaire puis pouvoir faire ce qu'ils veulent. Alors que si on vote vraiment selon nos valeurs, selon nos opinions, bien, ça envoie aussi un message aux politiciens qui nous dit « Parlez-vous donc. Toi, j'aime ça, ce que tu donnes. » T'sais, il n'y a pas personne qui a la vérité extraordinaire. Il faut se parler entre nous puis voir quelles sont les valeurs qui sont partagées entre quels partis puis quelles sont les idées majoritaires au lieu des partis majoritaires, s'il vous plaît. Quelles sont les idées?
Le problème est là, c'est que les gens ne prennent pas le temps d'écouter les idées. Ils voient un gros titre et ont l'impression qu'ils connaissent le sujet à fond et que leur opinion elle est vraiment valable. Quand, à un moment donné, il faut faire le tour de la question, prendre le temps de s'informer, c'est complexe. Mais pour ça, il faut suivre l'actualité, il faut lire, puis il faut lire des sources journalistiques et, qui ont un code de déontologie en lien avec les enquêtes, les nouvelles,
etc. Avec ce qui se passe dans nos médias locaux. Mais il y a une autre chose aussi qu'on oublie souvent, il faut en parler autour de nous. Les débats entre nous autour de la table, le milieu de travail, c'est très intéressant. Puis c'est une excellente source de voir comment les autres... Se laisser convaincre, avoir des débats. Tu sais, la politique, là, ça se passe le jour.
Oui, c'est sain, hein, pas être d'accord. On le fait souvent, oui. On n'est pas d'accord. Des fois, on est d'accord aussi, mais c'est sain, pas être d'accord, de l'exprimer. Tant que ça ne devient pas des attaques personnelles basées sur des émotions, il faut que ça soit basé sur de la rationalité, du pragmatisme.
Respect de l'opinion de l'autre.
Des données scientifiquement compilées. Et puis là, on va être capable de créer une opinion. Il n'y a pas de vérité en politique. Hein. C'est une question de contexte et de point de vue, mais il faut être capable de justifier notre point de vue avec des arguments solides.
Bien, c'est ça qui est intéressant dans le débat entre individus. Oui, et puis c'est important de le faire. On parle souvent des médias et autres, mais la politique, ça n'a pas un impact juste sur nous. Ça a un impact sur la communauté. Donc, c'est le fun de parler aux gens de notre communauté pour voir comment nous, on réagirait puis qui on voudrait mettre pour qu'ils réagissent de la même façon.
Tu illumines notre journée. Hey, avant de prendre la pause, on va terminer avec le NPD, juste rapidement. NPD qui, avant la dernière élection, était comme on pensait qu'il allait peut-être faire le gouvernement majoritaire au Canada. Et là, 4 ans plus tard, on se demande qu'est-ce qui se passe avec le NPD. Ils ont quasiment même pas le tiers de leurs candidats trouvés au Canada. On est en élection, ça va pas bien. Là. On sent qu'ils sont rattrapés par les Verts. Tu sais, les Verts vont chercher 11 %. Le NPD, en ce moment, il est à 8 % des intentions de vote. C'est un désastre là, pour eux. Qu'est-ce qui se passe?
Moi, je connais pas tant beaucoup la réalité du NPD, mais il faut penser aussi que Jack Mixon, lors des dernières élections partielles, a passé très proche. Il a pas été élu d'une manière extraordinaire. Là. Il a passé très proche. On a eu peur qu'il soit pas élu. C'est le chef.
Ouais.
C'est quand même assez important. Mais après la vague Jack Layton, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu des changements de chef, il y a eu des instabilités,
Thomas Mulcair était quand même solide, mais Thomas Mulcair a fait une stratégie électorale la dernière élection, c'est mon analyse, où il a essayé de plaire à tout le monde. Et en essayant de plaire à tout le monde, il a déplu à plusieurs et il s'est fait dépasser par la gauche, par le gouvernement libéral de Justin Trudeau.
C'est pas le parti le plus gauche, là.
Non, puis ils n'ont pas répondu nécessairement à toutes les attentes des social-démocrates, là. Mais c'est ça qui est arrivé. Et là, on dirait que c'est l'effondrement parce qu'ils sont pris, hein? Ils se sont mis dans l'élection entre les libéraux puis les conservateurs. Et là, ils sont comme entre les verts puis les libéraux. Fait qu'on dirait que c'est eux qui sont les perdants, tout coup, là.
Bien, je me pose la question, est-ce que ça a vraiment été bon pour eux d'avoir la vague orange? Parce qu'ils sont arrivés vite, beaucoup, sans expérience. Mmh. De manière complètement inattendue. Hey, c'est le fun de le vivre, mais à long terme, tu passes d'un barème à pouf d'un coup. C'est dur de garder ce standard-là. C'est très dur.
Les grandes, tu sais, pense au Parti libéral dans les années 60 au Québec, au PQ en 76.
Ces gens-là que tu me compares, c'est des partis qui ont été créés à partir d'autres partis, tandis que le NPD, c'était tous des gens qui rentraient en politique pour la première fois.
Mais c'est un parti qui existe depuis longtemps, puis il y a des gens qui rentrent en politique,
oui,
même à partir...
Oui, mais je veux dire, les députés qui ont été élus, la majorité, tu sais, Ruth-Hélène Brosseau dans Yamachiche, c'est ça qui est arrivé, là. C'est beaucoup de gens qui n'avaient jamais été en politique qui ont été nommés députés. Donc, ils sont arrivés, puis on est arrivé avec... même s'ils n'étaient pas au pouvoir, même s'ils étaient
un
troisième...
mais il y en a tout le temps de ça. Puis moi, je trouve que des fois, on parle de politiciens d'expérience, je trouve que c'est les plus véreux puis les plus groches, tandis que les gens, le 109 qui arrive, là, eux, là, oui, ils ont tout à apprendre, mais mon Dieu Seigneur, c'est encore la naïveté de sortir du paradigme, de vouloir changer les choses au lieu d'être pris dans l'espèce de... Non?
Je suis d'accord avec toi.
Bon, mais arrête de m'obstiner. C'est une blague.
Ce que moi, j'allais dire, c'est... Mais entre toi puis moi, combien de personnes au Canada pensent la même affaire? Parce qu'on dit une chose et son contraire. Mmh. On dit, on veut des gens qui ont des nouvelles idées, qui arrivent, puis qui changent les choses.
Mais on va voter pour l'homme blanc hétérosexuel.
L'homme blanc hétérosexuel, 5 ans d'expérience en politique,
T'as raison. Hey, je t'arrête là-dessus. Nous, on s'en va en pause et on revient tout de suite après avec la suite de l'émission. On va sortir des élections, on va parler de d'autres choses. Oui. À tout de suite. Bienvenue à la 5e saison d'Électron Libre. On pensait jamais se rendre aussi loin.
Cette émission est une présentation de la SADC Maria Chapdelaine.
Tous, un jour ou l'autre, être touchés par un problème de santé mentale. Au Canada, une personne sur 5 sera personnellement touchée par la maladie mentale au cours de sa vie. Prenez en main votre santé mentale en adoptant de saines habitudes de vie. Décrochez, pratiquez des activités valorisantes, mangez bien, bougez. Détendez-vous. Faites-vous plaisir. Voyez vos amis. Amusez-vous. Pour votre santé mentale, faites-vous les bons choix.
On est de retour. J'espère que vous avez profité de votre pause pour faire quelque chose d'extraordinaire. Nous, on a fait un petit refil de café et puis je me suis mouché. J'ai la grippe. Ben, ça arrive. Maintenant, on va arriver dans la région. Il se passe des choses en région. Bon, gros été, etc. Sécurité en milieu éloigné, c'est un sujet dont tu voulais absolument me parler ce matin.
Oui. Ça, c'est une belle grande annonce qui a été faite en partenariat avec la MRC Dominique du Roy et la MRC Maria Chapdelaine. Chapeau aux deux préfets et aux équipes de travail. C'est de délimiter sur un territoire de 57 000 km²
quand même,
des lieux d'évacuation bien indiqués.
C'est plus grand que certains pays, hein?
C'est plus grand que la Belgique en superficie. Donc, c'est déjà, ça, c'est très important. Mais 57 000 km², il faut se dire que la majorité, beaucoup de gens viennent dans notre région pour la villégiature, les chalets, les motoneiges, avec la passerelle du 49e qui va avoir plus d'achalandage. Toutes les personnes qui profitent de notre forêt comme milieu de loisirs, de milieu récréatif, bien, ça vient de énormément augmenter la qualité et la sécurité aussi. Parce que c'est comment fonctionne ce système-là? C'est 87 points de ralliement qui ont été bien marqués. C'est des grandes affiches rouges qu'on voit écrites en blanc avec des numéros et aussi les croisements. Lorsqu'il arrive un incident, par exemple, au chalet, on peut donner cette indication-là. Je suis dans un chalet dans le secteur tant, et les services d'urgence qui couvrent le territoire vont savoir à quel point.
OK.
C'est pas le troisième épinette sur le chemin. Non, en ayant le numéro, c'est géoréférencé. Donc, les services d'urgence savent dans quel secteur aller exactement. Donc, on sauve énormément de temps. Dans les dernières années, il y a eu des troubles face à une personne qui a fait une crise cardiaque à Gérardville. Il y a eu, dans le secteur beaucoup plus au nord à Gérardville, il y a eu des gens qui... Tu sais, des personnes qui sont perdues en forêt. Bien, juste le fait de dire, bien, moi, je vais passer par tel panneau. Ah, tu viens déjà de raccourcir. Le système est très intéressant. Pas cher, vraiment, dans l'implantation. Mais c'est tellement un bijou. J'ai vu ça dans différentes régions du Québec. Ça a fait une méchante belle différence au niveau de la réactivité de des services d'urgence. Donc, je dis chapeau parce que c'est quand même beaucoup de travail de concertation entre les deux MRC. Ouais. C'est compliqué, c'est complexe à mettre. Mais une fois que c'est mis puis que tout le monde est bien fait, c'est super le fun, même pour nos forestiers aussi. Donc, ceux qui ne connaissent pas ce système-là, je vous invite, prochaine fois que vous allez à votre chalet, allez voir c'est quoi votre numéro. Puis installez-le bien visible dans le chalet.
Après, que tout le monde puisse le savoir.
Pour que tout le monde puisse le savoir, il arrive un incident, quoi que ce soit, vous allez pouvoir dire je suis dans tel secteur. Puis ça va être beaucoup plus rapide pour les systèmes, pour les services d'urgence parce que même s'ils disent oh, nos cellulaires, le GPS, c'est pas toujours le cas. Puis les téléphones satellites, ils donnent pas la donnée GPS. Donc, en ayant ce numéro-là, vous allez énormément aider les services d'urgence de notre secteur. C'est vraiment chapeau. C'est un gros projet. Ça demande beaucoup de travail. Puis c'est de la coordination entre les milieux politiques, mais aussi entre tous nos services d'urgence des différentes MRC. Chapeau. C'est vraiment super.
Bon, bien, ça fait un beau... on comprend très bien. Bravo.
Ben, une bonne idée. Il faut juste penser, il y a quelques semaines, il y a un homme qui est décédé en quatre roues. Qui est décédé en VTT. Donc, si la personne avait été découverte plus tôt...
Peut-être qu'on aurait peut-être pu faire quelque chose.
Oui, parce qu'il y a le retraçage, il y a se rendre au lieu. Donc, c'est tout. Déjà, j'espère qu'en installant un point de service, déjà, ils savent comment se rendre à ces lieux-là de manière efficace.
Super. On a le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI.
Hein? Oui, ça a changé de nom cet été.
Oui, qui augmente sa présence dans la région. Je pense qu'on investit pour développer du personnel, entre autres pour l'accueil à l'immigration. Est-ce que j'ai bien compris?
Moi, je peux te donner, je vais tout de suite mettre quelque chose au clair. Je travaille pour une des organisations qui sont en lien directement avec le MIFI. Donc, ce que je peux faire, c'est donner seulement les informations qui sont en lien direct avec le communiqué de presse, mais je vais me retenir de donner mon opinion.
Non, c'est correct.
Je tiens à être très transparente.
Conflit d'intérêt.
Je tiens à être complètement transparente avec les auditeurs.
Parfait.
Le MIFI, qui s'occupe vraiment de la relation de nos immigrants, ça, c'est quelque chose qui est partout pareil à travers le Québec. C'est un nouveau projet qui va permettre à chacun des comtés d'avoir ce qu'on appelle des conseillers en intégration. Les agents d'intégration qui vont être embauchés par le gouvernement du Québec vont aider les immigrants et les entreprises à faire un mariage efficace. Donc, prendre un immigrant de Montréal, puis trouver un emploi, l'aider à trouver un appartement, trouver des ressources Puis aussi aider l'entreprise à l'intégration d'une culture différente.
On a déjà parlé régulièrement de ces services-là, puis ça fonctionne bien.
Oui, mais c'est là que c'est pour ça que je ne veux pas donner mon opinion, parce que Porte ouverte sur le lac offre déjà ces services-là. Ce qui, okay. ce qui est particulier.
OK, dans... là, j'ai dit, on a déjà parlé souvent, mais moi, je parlais de Porte ouverte sur le lac, c'est ça?
C'est ça.
Ah, d'accord.
Donc, Porte ouverte sur le lac, qui est une particularité de la région, offre déjà ces services-là. Donc, c'est ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça va évoluer.
Parce que là, est-ce qu'on a dédoublé l'offre de service par rapport à Porte ouverte du Lac ou on vient faire un complément en fait de service?
Il y a une valeur de complémentarité avec le service local d'emploi aussi.
Okay.
Avec le service local d'emploi, avec Porte ouverte sur le Lac, avec le MIFI. Donc, on recherche à être en complémentarité parce qu'au Lac-Saint-Jean, on a déjà 4 agents d'intégration d'expérience qui aident les gens à se trouver un appartement, des cours de francisation, intégration au travail. Puis, on intervient avec des gens qui, des fois, ne parlent juste pas le français. Puis, souvent, à force de leur parler en les outillant, bien, en moins de 6 mois, ils deviennent très autonomes. Puis, ils continuent leur francisation et ils veulent s'intégrer. Le plus dur pour eux, c'est socialiser.
Oui. Puis là, est-ce qu'on va pouvoir vraiment les aider?
Bien, déjà, la structure est déjà très présente. C'est ce qui fait que le Lac-Saint-Jean est très particulier là-dessus. Parce qu'on voit souvent l'immigration, c'est dans les grands centres. C'est les grandes...
La majorité des immigrants restent dans les grands centres.
Restent dans les grands centres. Pourquoi? Parce qu'ils ont été attirés en se disant qu'il y a la diversité culturelle et autres. Où on trouve la diversité culturelle? Dans les grands centres. Mais dans les grands centres, on retrouve aussi ce qu'on appelle des diasporas, des représentants de chaque pays qui se regroupent entre eux. Donc, c'est plus facile, le choc culturel, de le passer en se disant « je peux retourner dans ma culture ».
Mais le danger, c'est de se ghettoiser.
Et c'est là que la régionalisation de l'immigration est importante. C'est là qu'arrive le conseiller, l'agent d'intégration. C'est là qu'arrive cet individu qui va permettre à la personne de se trouver un emploi épanouissant, de l'aider à traverser le choc culturel et de s'intégrer adéquatement dans son nouveau milieu. Donc, Porte ouverte sur le lac est une particularité au Québec. À ma connaissance, il n'y a pas d'organisme comparable. Donc, étant donné que la solution a été faite à travers le Québec, c'est là que moi, je suis intéressée de voir comment ils vont s'adapter à la particularité de Porte ouverte sur le lac dans notre secteur. Mais on sait très bien, puis je le sais de l'intérieur aussi, qu'il y a une excellente relation entre le ministère, la direction générale, l'ensemble de l'équipe de Porte ouverte sur le lac et les services locaux d'emploi de Service Québec. Donc, c'est voir comment ça va s'installer dans notre région que je trouve bien intéressant.
Oui, pour pas qu'encore que ça arrive de l'extérieur et qu'on vienne nous montrer comment faire quand on le sait déjà.
Bien, surtout que le modèle, à ce que j'en ai compris du projet, c'est que le modèle est calqué sur ce que Porte ouverte fait déjà. Donc, c'est à voir comment ça va s'intégrer. Puis, faut se poser la question comment ça va fonctionner pour la personne immigrante. Est-ce que c'est la personne immigrante va aller tout de suite vers l'agent du MIFI et transposer à Porte ouverte sur le lac? Ou à Porte ouverte sur le lac, il faut absolument qu'il passe par le MIFI.
Ouais.
Donc, il y a cette chose-là qu'il faut prendre en considération aussi. Mais ça, j'ai pas peur. Avec les partenaires du ministère de l'Immigration que nous avons dans le secteur, qui sont super compétents, super agréables à travailler, je suis confiante. Puis avec la direction générale de Porte ouverte sur le lac, je suis très confiante que ces deux entités-là vont travailler conjointement pour un travail fluide et efficace, autant pour nos citoyens qui t'accueillent, parce qu'on parle souvent de l'immigration, mais il faut parler aussi des citoyens qui accueillent. C'est oui. pas facile! Puis on se cachera pas, là, c'est rencontrer des gens d'une autre culture, avant d'y être confronté, ça fait peur. Ça fait peur, mais il faut les accompagner aussi. Donc, voir vraiment comment ça va se faire, parce que le système d'immigration puis le système d'intégration, d'inclusion sociale puis d'accueil, c'est tout. Il y a tellement d'acteurs à prendre en compte que comment le travail va être dispersé.
Bien intéressant, on a hâte de voir ça. Tu pourras nous faire un suivi de semaine en semaine.
Comme je t'ai dit au début de ce sujet-là, moi, je parle vraiment selon les informations qui sont. Mmh. Je ne peux pas te donner mon opinion là-dessus. Mais il me fera plaisir, avec l'autorisation de la Direction générale de Porte ouverte sur le lac, de transmettre les messages si nécessaire.
Parfait, j'aime ça, je clique j'aime. on a un projet, projet Québec Rail, un projet qui est de faire passer le chemin de fer de Dolbeau-Mistassini jusqu'à Baie-Comeau pour faire sortir la marchandise et minerais, peu importe, de la région via le port de Baie-Comeau. Maintenant, il y a des gens qui font création d'emplois, on pourrait sauver des trucs comme plus avoir de projets de port sur la rive nord du Saguenay parce qu'on pourrait prendre les métros dans les métaux dans le bois directement
diminuer
les amener.
Le transport routier?
Oui. D'un autre côté, il y a les gens de Saguenay, les gens autour du port de Grand-Anse, etc., qui disent non, on a déjà les infrastructures, c'est comme ça qu'on a développé la région, il faut vraiment garder ou développer l'économie chez nous au lieu d'encourager l'économie ailleurs. On ne comprend pas pourquoi le gouvernement investit 7,5 millions d'une étude de faisabilité là-dessus, etc., etc., etc. En fait, moi, je pense que, encore là, une question de contexte, qu'est-ce qu'on met en priorité? L'économie, l'environnement?
Je suis tellement mitigée face à ce projet-là parce que, d'un côté, oui, le développement du fjord est bien intéressant, mais le développement du fjord a déjà un port, il répond déjà aux besoins. Il y a déjà des scandales face à l'utilisation accrue du fjord pour les bélugas pour plusieurs raisons. Je me dis, c'est quoi le problème que le lac Saint-Jean fasse affaire avec Baie-Comeau? Parce qu'on dirait toujours que le lac Saint-Jean, quand il doit faire affaire, il faut qu'il passe par Saguenay, il faut qu'il passe par le fjord.
Là, on est encore dans la dichotomie Saguenay-Lac Saint-Jean.
Non, ben, à chaque fois que le lac Saint-Jean doit faire affaire, il faut toujours qu'il y ait un bureau à Saguenay. Il faut toujours qu'il passe, alors que là, le lac Saint-Jean peut être indépendant puis parler par lui-même à une autre région. Moi, je me dis, il y a l'aspect environnemental, les trains, c'est moins de transport routier.
Oui.
C'est dans un secteur qui va améliorer la relation avec la région voisine, qui est la Côte-Nord. Augmentation de l'emploi. Moi, dans des informations que je connais, moi, je vois pas où est le défaut. Je sais, je comprends que le fjord...
Ça enlève, fait du trafic à ce qui peut se passer dans un port qui est à moitié vide déjà, là. Le port de Grand-Anse...
tellement tous les projets que le fjord doit déjà gérer, puis ça demande comment ça va se faire... Lui, est-ce qu'il fait vraiment tant une différence que ça? Parce qu'il n'y a pas de... À ce que je sache, y a-t-il une usine résolue à Saguenay? Dans le secteur du fjord? Y a-t-il des usines résolues? Il y en a une à Baie-Comeau. Puis il y en a une qui utilise le matériel qui est fait de nos... À Saint-Félicien, à Chibougamau et à Dolbeau-Mistassini, qui utilise des matériaux de notre secteur qui s'en va à Baie-Comeau. Pourquoi passer par le fjord?
Local?
Non, là, je dirais plutôt intermédiaire local.
Oui, c'est ça.
Parce que, c'est de l'achat local, oui, mais c'est plutôt, on va le vendre à un intermédiaire qui va le revendre à Baie-Comeau au lieu de faire une ligne directe. Il y a deux projets qu'on a mis. Il y a le Québec Rail, mais tu sais, le développement du port de Saguenay, c'est que moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que présentement, le port qu'on a à Saguenay est du côté sud. Et ils veulent en développer un au côté nord pour ça. C'est que le projet permettrait de solidifier un projet d'une nouvelle construction d'un deuxième port, qui est déjà lui-même mitigé. Je pense qu'au contraire, pour le développement du secteur...
Donc, l'idée de faire une étude d'impact, de regarder la faisabilité, c'est pas idiot, là?
Non, au contraire, ça veut pas dire que ça va pas se réaliser. Au contraire, ça va appuyer la décision qui va être prise après cette étude d'impact-là. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser. Ça veut dire, il faut prendre en considération l'emploi, le développement économique, l'autonomie des régions, la construction possible de ce deuxième port-là. Oui. Il y a le transport forestier. Il y a plein de choses qui vont être prises en compte dans cette étude-là.
J'aimerais aussi qu'est-ce qu'on mette au-dessus, que ce soit la science, plutôt que les intérêts. Qu'est-ce que la science nous dit sur le trafic maritime au niveau de l'environnement pour les bélugas, etc.? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire pour l'habitat des baleines, pour la forêt, pour la pollution de l'eau, de l'air, l'émission de GES, etc.?
Comme si le développement économique ne pouvait pas prendre en considération les impacts environnementaux.
De toute façon, l'avenir, on le sait, ça va être l'économie verte. Que les compagnies qui vont se développer avec une économie verte vont être beaucoup plus rentables à long terme, c'est certain. On s'en va vers ça.
Mais moi, je me dis, notre économie est basée sur des ressources naturelles. Pourquoi ne pas les garder naturelles le plus possible en prenant en considération le développement durable? C'est pas plus compliqué que ça. Donc oui, ça fait partie de l'étude d'impact. Moi, avec les informations que j'ai, et je ne suis pas chercheuse, je ne suis pas scientifique,
toi d'ailleurs pour être ici?
Je suis une citoyenne avec beaucoup d'opinions.
Effectivement.
je viens de te répondre à ta question. Moi, je ne vois pas où est le problème avec Québec Rail à part, on ne passe pas par le fjord.
Ouais.
On ne passe pas par Saguenay. On ne passe pas... Non, on est indépendant. On décide de ne pas être saguenay-centriste. On décide d'être indépendant puis de faire le lien entre...
Pardon.
C'est bon.
Mais à quelque part, c'est correct pour eux, à Saguenay, de défendre ce point de vue-là parce qu'ils veulent que ça passe ici. Mais En fait, en ce que moi, ce que j'entends, c'est que les gens à Saguenay qui sont contre le projet, mais j'entends pas les gens du lac être pour.
Est-ce que les gens du lac sont vraiment au courant des impacts face au fjord?
Oui.
Est-ce que les gens du lac se sont...
Pardon.
Présentement, les gens du lac savent juste que Québec Ride, parfait. Est-ce qu'ils savent qu'il y avait été envisagé de transporter par le... Est-ce que ça a déjà été envisagé dans le projet initial? Mm-hmm. Aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, il y a un impact politique, mais en premier, c'est un projet privé. Mm-hmm. C'est un projet des forestières. Donc, oui, il y a un impact politique. Dans le fond, la politique peut bloquer ou peut aider, mais ne peut pas décider. Elle peut décider en donnant des permis.
Ouais, ouais, bel enjeu.
Pour un développement économique efficace et durable qui et nous local. Permet. De l'autonomie,
j'aime ça. Debout Misasli forme un comité consultatif pour le développement économique. Tu voulais parler de ça, toi?
Oui, je voulais parler de ça parce que pénurie de main-d'œuvre, développement économique, est-ce qu'on fait partie du développement durable? Je trouve que c'est un beau lien avec notre dernier point. Mm-hmm. À quoi ça sert un comité consultatif? On a une nouvelle direction du développement d'entreprise.
Ben oui, à quoi ça sert?
Hein? Ben je pense que ça sert à l'appuyer. Puis c'est une bonne chose d'avoir des opinions des entrepreneurs de la région et des gens qui vivent de l'impact de ce développement-là. Mais aussi voir d'autres solutions, puis arrêter de se regarder juste nous, c'est quoi nos problèmes au niveau de notre main-d'œuvre, puis regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs. Parce qu'au niveau de la main-d'œuvre, c'est, on se le cachera pas, dans certains cas, c'est un problème de gestion des ressources humaines plus que de disponibilité, parce que la main-d'œuvre est disponible, mais est-ce qu'elle a le goût de travailler dans les conditions que tu offres? C'est autre chose. Est-ce que tu es capable de donner les conditions nécessaires pour que la personne ait le goût de travailler? Est-ce que c'est à l'entreprise de faire des changements ou la municipalité, les différents paliers de gouvernement peuvent faire des changements pour aider à la main-d'œuvre à venir s'installer? Il n'y a pas juste les subventions. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives que la main-d'œuvre qui peuvent être prises en considération? Par exemple, la robotisation de certains éléments? C'est pour ça que je trouve ça bien intéressant, parce que aussi dans le développement économique, ça a un impact sur l'urbanisme à Dolbeau-Mistassini. Où c'est qu'on va mettre les quartiers industriels? Comment on va faire la valorisation des produits forestiers tout en ayant un développement durable? Comment on va encourager nos startups? Donc, il y a plein de choses qui vont être bien intéressantes à voir. Puis, la question qu'on m'a déjà posée à ce sujet-là, bien, la Chambre de commerce, ça sert à quoi? La Chambre de commerce, c'est un rassemblement des entrepreneurs pour aller chercher plus de formation, mais ils ne sont pas dans les décisions municipales. Donc, oui, ils ont un impact, mais pas autant que les membres du comité consultatif.
Mais qui restent consultatifs, donc ils n'ont pas de pouvoir de décision. Ils sont là comme consultants pour donner un avis, une opinion, une expertise.
Un avis, une opinion, une expertise, un point de vue, une expérience aussi. Il n'y a pas juste... Tu sais, quand on parle d'expertise, on peut avoir des expertises au niveau théorique, mais... Un entrepreneur de notre région qui a fait un essai d'un nouvel équipement ou d'une nouvelle manière de travailler, qui a dit « Hey, ça, faudrait qu'on aille plus dans la région, ça nous augmenterait en efficacité. » Le comité consultatif, oui, va donner des idées, mais va aussi donner leur juste sur les réels problèmes qu'on a. Parce que ce qu'on voit dans les médias, puis les problèmes qu'on voit à l'interne, c'est les entrepreneurs sont, pour en être une moi-même, on est bien gênés de dire c'est quoi nos vrais problèmes.
C'est quoi tes vrais problèmes?
Moi, j'ai un problème de main-d'œuvre, mais j'ai un problème aussi de valorisation de mon entreprise parce que c'est un milieu qui est assez particulier. Puis, c'est un milieu quand même assez politique. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'est même pas dans le milieu politique, ben, je me retrouve un peu le bec à l'eau. Donc,
fais attention à ce que tu dis.
C'est pour ça que je ne vais pas plus loin. Mais, je veux dire, c'est le genre de choses que les gens ne sont pas au courant puis que les gens au développement économique à la municipalité... Ah! On l'avait pas vu, ce problème-là. Mmh. Ah, puis c'est un problème qu'on peut régler.
Ah oui.
Donc, c'est pas juste dire on va trouver des solutions, c'est aussi on va mettre sur la table les enjeux qu'on ne connaît pas qui peuvent faire une méchante différence sur le développement économique de notre secteur. C'est pour ça, le comité consultatif, on ne faut pas s'attendre à quelqu'un, des gens qui vont prendre des grandes décisions, mais ça va être des gens qui vont avoir un pouvoir en mettant de l'avant des problématiques qu'ils vivent, des problématiques qu'ils observent aussi, parce que des fois, il y a des entreprises que ça va bien, mais ils voient leurs fournisseurs qui ont une bonne relation avec eux, puis ils font comme « ouais, mais mon fournisseur, il n'est pas capable à cause de telle affaire. » Ah, donc c'est des gens de réseau. C'est pour ça que les comités, je trouve ça bien intéressant. Et j'ai pas vu beaucoup de comités de développement économique. Souvent, c'est des conseillers municipaux, mais parler aux entrepreneurs, c'est intéressant. c'est audacieux, mais ça va être difficile de rattraper des entrepreneurs parce que je connais pas d'entrepreneur qui a du temps libre.
Puis dans ce comité consultatif-là, est-ce qu'on donne aussi la parole aux travailleurs, aux gens? Tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste, dans l'économie, là, il n'y a pas juste les entrepreneurs, là, c'est tout un écosystème. Là.
Oui, mais je n'ai pas regardé les détails du comité consultatif, mais j'ai bien conscience aussi que les gens, il ne faut pas oublier que les gens sont sélectionnés pour être dans ce comité-là, pour représenter certains milieux. Puis,
parce que des fois, je trouve que dans ce genre de comité-là, on a, tu sais, mettons, 5 personnes, mais c'est 5 personnes qui ont un peu la même expertise. Donc, au bout du compte, on n'en aurait rien qu'une, puis on aurait un peu le même discours.
Mais c'est là qui est intéressant que la documentation que j'ai eue à propos de ce comité-là, c'est qu'ils sont sélectionnés par leur milieu d'emploi, leur domaine aussi, mais par leur expérience.
Ah, bon.
Mais quand je dis par leur expérience…
Ça vient les choses dans le nord du lac.
Oui. Dans notre expérience… Bien, ça peut être quelqu'un qui commence une entreprise, autant que celui-là que ça fait 30 ans, que celui-là qui cherche la relève aussi, qui est un gros défi dans notre région. Celui qui recherche la relève, celui qui a un problème de pénurie de main-d'œuvre, mais il y a celui-là qui a une pénurie de matières premières, celui-là qui n'est pas capable de répondre au contrat parce qu'il ne retrouve pas les ressources humaines ou matérielles dans le secteur. Donc, tout le monde a ses problématiques, puis tout le monde a sa vision, son point de vue sur le développement économique. Donc,
il n'y a pas de vérité, hein? C'est tout une question de contexte.
C'est pour ça que j'aime bien qu'ils fassent une sélection du comité consultatif pour ne pas se retrouver avec toutes les mêmes personnalités puis que ce soit une gang d'amis qui parlent entre eux autres.
Joanie,
oui?
Merci infiniment. Cette première émission fut enlevante, excitante. Ça met à la table pour la saison. Merci à vous d'être de retour, de nous écouter. Si vous avez des commentaires, des suggestions, écrivez-nous. Si vous voulez qu'on traite d'un sujet en particulier, qu'on fasse un dossier sur peu importe, écrivez-nous, donnez-vous votre avis.
On veut votre opinion, on veut vos sujets, on veut savoir ce qui vous touche.
Des fois, on n'est pas au courant de tout non plus. Puis...
on veut le savoir, on veut le savoir. Et j'ai un autre point pour toi, Pierre. Ouais. Vous avez remarqué, chers auditeurs, nous avons perdu notre tasse. Et on invite les citoyens de la MRC Maria-Chapdelaine et Domaine du Roi, toutes les personnes qui nous écoutent, vous voulez, vous êtes artiste en art visuel, bien, on vous offre cet espace. À chaque émission, on souhaite avoir à chaque émission une œuvre différente. On va présenter rapidement l'œuvre en début d'émission.
Et l'artiste.
L'œuvre et l'artiste en début d'émission. Puis on veut faire connaître nos artistes.
Il n'y a pas de limite. Sauf, mettons, une statue de 40 mètres en béton.
Le studio est à peu près 8 pieds de haut.
Donc, merci, Joanie. Merci à vous. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Avec Jules Simard qui sera de retour. Ne vous inquiétez pas, il sera là pour venir se fâcher avec nous. Bonne semaine.
Bonne semaine.